Bonsoir et bienvenue dans le podcast passionné et passionnant des écrans terribles. Nous vous parlons toujours en direct de Berlin et plus particulièrement de la Berlinale 2019. Avec notre rédactrice en chef préférée, Carole Milleliri.
Salut.
Notre cinéphile germanophone adoré, Marine Legrand.
Coucou.
Et moi-même, Yael Simkovitch, maître de cérémonie de ces dépêches critiques auditives et festivalières très remontées en ce troisième jour. Nous sommes effectivement le samedi 9 février 2019 et vous écoutez Les Écrans Terribles chez les ours, épisode 3. C'est ce matin, comme les autres matins, enfin en tout cas hier, à 9h du matin.
Ou les autres matins.
Voilà, ça veut dire quand même un départ assez tôt. Et effectivement, il y en avait été très réveillé par le film. Ce matin, on a commencé par un film autrichien qui s'appelle Der Boden unter den Füßen, dont j'ai oublié le nom de la réalisatrice. Vous allez m'aider dans quelques instants. En tout cas, en anglais, le titre du film, c'est The Ground Beneath My Feet.
Et la réalisatrice, c'est Marie Kreutzer.
Marie Kreutzer, voilà. Elle l'a écrit et réalisé, il me semble. En tout cas, oui, c'est ce qui a écrit, written and directed. C'est un film... Marine, est-ce que tu veux pas nous lancer dans la conversation en disant quelles étaient tes impressions de ce film?
J'ai l'impression que c'est d'en sortir déjà.
Je me suis dit, est-ce que je résume le film avant que tu donnes des impressions? Je peux résumer un peu le film. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lola, de son vrai nom Caroline, qui est une professionnelle consultante, on dit Berufra en allemand, c'est une femme de carrière, ça se dit carrière woman en anglais aussi, je ne suis pas exactement sûre du terme français. En tout cas, c'est une femme dont le travail est très important, qui est consultante avec beaucoup de succès, mais qui, durant le film, traverse une phase très particulière parce que sa sœur, qui a des troubles de schizophrénie depuis une vingtaine d'années, est en phase de complications, est à l'hôpital et elle doit essayer de gérer de front sa vie professionnelle et cette vie personnelle, sachant que sa sœur est à Vienne et qu'elle, elle travaille à Rostov, qui est au nord de l'Allemagne. Donc, pour vous donner une idée de la complexité de la situation. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça dont le film parle. Marine.
Alors, moi, oui, je pense... Alors, mes impressions, c'est... J'ai aimé le film, mais je pense que le film aurait pu être beaucoup mieux, en fait. Je pense que le film aurait pu être beaucoup plus abouti. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un excellent film, en fait. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on va en parler, je pense. Mais j'étais satisfaite de ce premier film.
De la journée.
De la journée, oui, oui.
Parce que c'est pas le premier film
j'ai été satisfaite de ce premier film de la journée. Point.
Carole.
J'ai été intéressée par ce film. J'étais intéressée par son héroïne. Après, c'est un film opaque, comme ce personnage de Lola qui a un rapport très compliqué à ses émotions, à sa propre histoire. Et je désirais profondément tout au long du film qu'elle s'échappe de toute cette vie qui lui fait énormément de mal, mais je trouve que c'était très pertinent, très bien vu sur un certain monde de l'entreprise assez désincarné et toute la pression qu'on peut s'y mettre soi-même pour gravir des échelons. Et là, elle a toute la tension entre la vie personnelle de Lola et sa vie professionnelle été menée avec une... J'ai l'impression qu'on est quand même finalement beaucoup plus mitigé sur ce film en parlant, tu vois, toi et moi, Marine, parce que moi je vois aussi que j'ai du mal à en parler, que ça ne l'était ce matin à la fin de la projection. C'est un film qui me met mal à l'aise, mais qui me met mal à l'aise parce que le personnage est dans une phase d'instabilité. Donc je pense que ça va se décanter petit à petit de la conversation, mais voilà, c'est ça pour l'instant.
Alors, c'est un film ils en parlent à un moment en disant que ça n'existe pas vraiment, mais pour moi c'est quand même un film sur le burn-out. À tout point de vue, c'est un burn-out professionnel dans les règles, c'est-à-dire quelqu'un avec le type de carrière et le type de profession qui va faire des burn-out.
Il nous en parle plusieurs fois, mais Lola refuse le
terme. Oui, elle dit... en fait, ouais, elle dit c'est un... C'est une maladie à la mode, mais c'est pas un vrai truc. Mais en réalité, c'est ça dont ça parle. Pour avoir eu des amis qui ont travaillé dans des milieux professionnels similaires en Allemagne, il y avait quelque chose d'incroyablement juste dans la façon dont le professionnalisme et aussi le monde du business international, notamment, est montré. Parce que c'est des consultants, donc ils arrivent dans des boîtes où ils doivent essayer de faire le ménage, redresser les choses... on n'est pas du tout sur quelque chose de très cynique d'ailleurs et négatif sur le fait « Ah, les salauds qui viennent détruire les petites entreprises », ils sont peut-être un peu vus comme ça. Il y a vraiment ce truc sur la pression de ce type de boulot et avec la métaphore aussi de la pression psychologique d'être dans un burn-out émotionnel quand on a des problèmes mentaux en fait. Avec la sœur, c'est des thématiques hyper fortes, hyper, et je trouve assez... C'est très justement montré. Je pense que le film, effectivement, par contre, n'arrive pas vraiment à nous dire ce qu'il veut nous dire, en fait. Il n'est peut-être pas sûr de ce qu'il veut nous dire. Donc, du coup, à la fois, il y a énormément de choses qui m'ont plu, qui m'ont intéressée et que j'ai trouvé très juste, très judicieuse et très pertinente. Et en réalité, en tant que film, la somme, c'est un peu ce genre de truc où les parties sont plus fortes que la somme des parties. Enfin, voilà. Et en fait, c'est un peu dommage. Il se trouve pourtant que... pour moi, le film ne souffre pas. Je suis sortie de ce film en me disant « Oui, bon, c'est pas si terrible que ça. » La fin de la journée me fait apprécier le film autrement, bien autrement. Vous allez voir, par rapport à les deux autres films, on ne voit pas les choses dans un vase clos, quoi. La première truc, c'est de me dire « Ah, c'est quand même moins intéressant que sur les 4 films que j'ai déjà vus, il y en avait 3 qui m'ont plus intéressé que celui-là. » À la fin de la journée, je fais « Ah oui, quand même, mais par rapport aux 7, maintenant, on n'est plus dans le même ratio. »
Oui, forcément, on ne peut pas s'empêcher de comparer les films les uns aux autres.
C'est
même
ça.
Si les styles sont différents, les sujets différents, ça fait aussi partie du jeu
de
les confronter. Quoi.
Et on ne va pas pouvoir sortir de la question genrée. Et c'est un film réalisé par une femme, avec des femmes, beaucoup de personnages féminins.
Et ça se remarque tout de suite.
Et ça se voit tout de suite. Et du coup, automatiquement... Et la question, c'est pas « je me reconnais, moi j'existe en tant que femme, je préfère », c'est aussi, il y a quand même quelque chose dont on parle souvent hors antenne et aussi quand on fait des podcasts et quand on écrit des articles, qui est que traditionnellement, historiquement, il y a eu moins de femmes qui ont raconté des histoires et qui ont écrit des histoires depuis le début de la littérature, du cinéma, etc. Donc du coup, c'est des perspectives et des points de vue et des identités qu'on est moins habitué à voir. Bien sûr que des hommes écrivent sur des femmes, mais malgré tout, on a quand même, c'est un côté rafraîchissant en fait. Donc c'est pas tant que j'ai envie de me reconnaître sur l'écran que tout d'un coup, c'est aussi en tant que cinéphile. Je vois des choses faites par ces femmes qui, c'est pas le cas de toutes les réalisatrices d'ailleurs, mais là, dans ce cas-là, ces 3-là me montrent des choses que je n'ai jamais vraiment vues comme ça montrées à l'écran. Et donc du coup, ça joue.
Oui, c'est des histoires, des trajectoires différentes, et puis aussi une façon de dépeindre les femmes et de construire des personnages féminins complexes avec beaucoup de nuances qu'on voit pas si souvent.
Ouais. Puis jouer sur le fait de montrer quelqu'un qui est dans... Du coup, ça me fait penser, effectivement, ce personnage féminin-là, d'une nana qui est professionnelle, qui veut montrer son professionnalisme et qui est avant tout veut bien faire son travail et montre du coup pas ses émotions parce qu'on est aussi dans la retenue, dans la pudeur, dans le business, dans le machin. C'est hyper intéressant à montrer à l'écran et de voir tout ce que ça lui coûte. Aussi, je trouve que c'est une femme, du coup, on spoil un petit peu. Si vous voulez pas entendre les spoilers, passez au chapitre suivant. Vous trouverez le listing des chapitres sur la page là où vous êtes sur le site, ou si vous écoutez le MP3, vous trouverez aussi. C'est une femme lesbienne aussi qui est dans une relation amoureuse avec sa boss, qui est hyper intéressant aussi par rapport à tout ce que ça sous-entend. Et il y a quand même aussi des choses qui sont montrées par rapport à son rapport à certains hommes dans la boîte. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir en fait.
Oui, il y a plein de choses qui se jouent au niveau des jeux de domination, y compris entre les personnages féminins, avec justement l'intensité de la relation affective, émotionnelle, physique. Est-ce que ça vient bouleverser ? Comment le privé parasite le professionnel et inversement, avec la boss à un moment qui dit mais tu oublies que je suis ta chef, etc. Et le fait de la confiance qui existe dans la relation de couple n'existe pas forcément dans la relation de travail, et c'est extrêmement perturbant. Et on voit comment la domination masculine se joue dans un certain nombre de réunions aussi, quoi. Et comment la boss, qui est une femme et qui est en couple avec Lola, a elle-même internalisé plein d'habitudes sur le fait de promouvoir des hommes, de valoriser les hommes aussi. C'est un personnage.
Mais elle le fait pas tant que ça, en fait. On a l'impression qu'elle va le faire tout le temps. Parce que Lola est parano tout le temps de se faire évincer. Mais qu'en réalité, dans les faits, elle ne promet jamais le mec au-dessus de lui.
Elle finit par ne pas le faire, mais c'est vrai qu'il y a l'impression d'une menace. Mais qui est dans la paranoïa de Lola,
du coup c'est hyper intéressant que du coup nous en plus on est persuadé que ça va arriver parce qu'on a l'impression qu'on a déjà vu cette histoire, et en fait on est persuadé pendant tout le film qu'elle va se faire larguer comme une vieille chaussette par sa boss, qu'elle va se faire évincer, se faire éjecter de tous les projets, et en fait à chaque étape finalement ça n'arrive pas.
C'est pour ça que je dis que quand je disais que le film je dis que j'apprécie le film parce qu'en fait je trouve que le film est bon en fait, sauf que je trouve que ça ne fait que caresser en fait le
oui,
ça montre qu'une partie en fait, c'est pas assez profond par rapport au sujet. Mais par exemple la façon dont les hommes dans le travail sont dessus, enfin tu vois par exemple quand elle va dans une entreprise, il y a un mec qui lui parle et qui veut l'emmener boire un verre. C'est clair qu'il veut la sauter, tu vois, et qu'il lui fait des avances, la façon dont il la regarde. C'est des trucs posés, mais c'est exactement ce qu'il faut montrer, parce que c'est juste le côté léger de ce qu'un prédateur homme pourrait faire dans une entreprise, tu vois.
Il est juste très arriviste et il pense que c'est gagné d'avance.
Le mec lui dit je pourrais mettre ma main entre vos jambes, mais moi je ne fais pas ce genre de choses. Je vous dis juste que j'ai envie de le faire. Et t'es là.
Il s'est caché, mais tu vois, t'as juste deux phrases qu'il va dire, enfin deux trois phrases qui sont déplacées. Mais après, t'as un regard qui est toujours posé, etc. Mais ça montre juste que t'as pas besoin de beaucoup pour être déplacé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la façon dont t'as... c'est présent tout le temps, en fait. À chaque fois, il faut pas montrer un truc énorme de
oui,
d'un mec
ça.
Qui te touche ou un truc comme ça. Tu veux dire que juste les paroles, les regards sont
une
pression constante. Et je trouve qu'elle arrive très bien à montrer ça. Par le mec joue très, très bien ce côté...
En plus, il est pas mal. Tu sens qu'il a. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est quand il veut dire au revoir et qu'il commence à parler à nouveau avec Lola.
Oui, l'autre,
elle est jalouse. Sa meuf, elle est pas jalouse.
Ah, moi, je trouve qu'elle a un truc où elle le voit.
Non, sa meuf, elle se met immédiatement pour la protéger.
Moi, j'ai cru qu'elle vient faire écran.
Oui, mais en même temps, c'est pas jalouse. Non, c'est pas jalouse ce que je voulais dire, mais. Elle remarque le truc directement.
Oui, et du coup, elle vient protéger sa meuf.
Ouais.
Elle s'interpose en disant « Eh ben, nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Au revoir, monsieur. » Et lui, à ce moment-là, il prend la main de l'autre. Mais tu vois, et dit « Nous étions tous très heureux. » Elle fait écran.
Elle se met à côté d'elle pour faire front avec elle et qu'elle ne soit pas seule à affronter ce type.
Parce qu'elle connaît ce genre, elle a tout de suite compris ce qui se passait.
Et ça, c'est hyper intéressant de se dire parfois, il suffit juste d'être à côté, pas d'intervenir, de répondre au type en lui disant « Non, mais... » ta gueule ou c'est dégueulasse ce que tu fais, mais juste être là. Et je pense que c'est une bonne leçon pour tout le monde, ça.
Ouais.
Le fait de faire corps avec quelqu'un, d'être allié avec quelqu'un, ça peut suffire à désamorcer une situation.
Ouais.
Mais d'ailleurs, je sais pas si ça vous arrive, mais quand je croise quelqu'un dans la rue, dans le métro, généralement à Paris, quand je suis confrontée à une situation de quelqu'un, un mec qui crie sur une femme, ou souvent un mec qui crie sur une femme d'ailleurs. Un des trucs que je fais, c'est avant de m'interposer ou de gueuler sur quoi que ce soit, c'est que je m'approche en fait. Je dis rien, je suis très calme, mais je m'approche, je suis tout sourire, mais je me mets juste à côté. Et du coup, naturellement, le mec calme le jeu, souvent. Et du coup, il y a un truc qui se suit, mais du coup, en fait, c'est une façon de dire en fait, tu n'es pas seul, tu n'es pas dans l'impunité. Après je connais pas les tenants et les aboutissants, je sais pas quelle est la situation entre cette femme et cet homme, mais c'est un truc que je fais. Et ça m'est arrivé avec un type qui m'a emmerdé dans le métro, pas gravement, mais il commence à me saouler et puis d'un coup il a commencé à me traiter de connasse. Et pareil, il y a un mec qui est arrivé, je l'ai vu dans mon champ de vision, il s'est juste approché, il s'est même pas approché à un mètre de moi, il est arrivé jusqu'à un mètre de moi et attendu, et quand on est monté dans le métro, il est monté dans le même wagon que moi, avec ses regards, ses sens, juste en regardant où était l'autre type pour être là pour dire. Et du coup, l'autre type est parti. J'ai regardé, je fais merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Il fait, je voulais surtout pas vous déranger, c'était juste que je voulais. Je lui dis, non, mais j'ai très bien vu ce que vous avez fait, vous avez extrêmement bien fait parce que vous m'avez complètement montré. Vous n'êtes pas seul avec ce type qui vous emmerde. S'il se passe quelque chose, je suis juste à côté. Et c'était un jeune mec de 21, 22 ans, tu vois, et j'étais là. Merci. Et donc oui, faire front. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un des trucs du burn-out, c'est que parce qu'elle ne s'autorise pas à être vulnérable, parce qu'elle ne s'autorise pas à exister, parce qu'elle ne s'autorise pas à avoir des émotions, et ben du coup, elle se compresse elle-même dans une situation de paranoïa permanente, alors qu'en fait, sa boss et meuf est beaucoup plus bienveillante vis-à-vis d'elle qu'elle ne l'imagine tout le temps. Elle passe son temps à se sentir en danger. Et en réalité, je pense que le film nous montre qu'en fait, elle ne l'est pas vraiment. Mmh. Et c'est assez fou. Mais d'ailleurs, même dans la façon dont sa nana lui parle
même en général, la façon dont elle se comporte avec elle. Elle est très... En fait, elle est... Bah, le truc, c'est qu'on est vraiment amené, grâce à cause de sa paranoïa, à être un peu à douter comme elle, un peu, que sa nana... tu vois, au moment où elle regarde dans son sac pour chercher une aspirine, je me suis demandé si elle n'avait pas trouvé un truc dans son sac.
C'est clair.
Elle va voir qu'elle fait un truc, mais en fait, non, elle a juste vu qu'elle a des médocs et elle dit à un moment, il faut que tu saches quand t'es à bout et qu'il faut que tu prennes un médoc, des choses comme ça.
On est tous sous médoc, si on est tous sous médoc,
pour survivre, etc.
Et c'est vrai qu'à ce moment, elle est aussi très sous pression et où donc sa nana, sa boss, j'ai oublié le prénom, l'attend dans le couloir avec
Élise,
des courses.
Je crois qu'elle s'appelle.
Pour pouvoir la nourrir. Alors là, je sais que
t'es. Elle est arrivée à Vienne, du coup, elle se veut dire qu'elle a débarqué à Vienne.
Oui,
elle a fait le trajet pour être au courant.
Et après, elle l'aide, donc après, l'autre fait un truc parce qu'elle est dans sa paranoïa, etc. Mais elle est toujours là, quoi. Et mais moi le truc qui me dérange avec ce film, c'est c'est ce manque de finition, en fait. C'est-à-dire que tout est abordé, mais c'est toujours ce côté donc
en surface,
et en gros il n'y a pas de, c'est pas fini. C'est-à-dire que la fin, moi, ça se termine en suspens, en fait. Il y a pas une résolution, il y a pas quelque chose,
il n'y a pas de catharsis, on en parle tout à l'heure, exactement.
Donc je trouve ça dommage. Ça ne me dérange pas. Après, c'est ce qui fait que ce film va être oublié, en fait. Tu vois ce que je veux dire, de ma tête,
en fait. Je pense qu'il va être écrasé dans nos souvenirs par d'autres films dans les
il a ce côté je vois juste un truc flottant, genre un petit truc.
C'est le problème, en fait. Je suis en train de penser que quand même le problème de la problématique de la fin des films, c'est quand même un problème récurrent, quoi. Mmh. Le nombre de films qui ne savent pas finir, qui ne savent pas se terminer. Et là, il y a un truc où à la fois il y a quelque chose de spectaculaire avec le finalement sa sœur se suicide. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. J'ai dit qu'il y avait des spoilers.
Non, mais
on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas si elle part en Australie. On suppose qu'elle part en Australie, du coup. Enfin, elle a le job, tout ce qui devait se passer, effectivement, des choses qui étaient en suspens pendant le film. Voilà, mais il y a quand même, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a tout un moment au milieu où on sous-entend qu'elle souffre aussi de schizophrénie. Mmh.
C'est
complètement abandonné en cours de route. Et du coup, à la fin, t'es là. Parce que moi, si la nana, on croit qu'elle a des hallucinations. Elle croit qu'elle reçoit des appels de sa sœur alors que sa sœur ne peut pas l'appeler. Et que juste après, c'est là que le mec lui fait des avances extrêmement osées. Moi, ça me pose un peu souci quand même. Mmh. Parce que du coup, quand il lui propose d'aller boire un verre et qu'elle dit, je peux aussi passer dimanche. Elle dit, après, on peut boire un verre pour parler des derniers détails. Elle dit, oui, on peut aussi se voir, je peux passer avec plaisir à votre bureau lundi matin. Et là, elle lui dit, vous savez, hein, je pourrais me permettre de mettre la main, mettre la main sous la table et la passer entre vos cuisses. Mais moi, je ne suis pas ce genre d'homme. Moi, je ne fais que vous dire que j'ai envie de le faire. C'est quand même quelque chose de, surtout la façon dont il le dit, enfin les mots qu'il utilise en allemand, c'est extrêmement cru.
Mais ça demandait si elle l'a vraiment entendu ou si elle l'a pas imaginé, quoi.
Et le fait que juste avant, ils nous ont fait pendant une demi-heure mis des doutes sur est-ce qu'elle entend des voix. J'étais là. Du coup, vous êtes un peu en train de jouer contre vous-même, là, les gars. Tu vois, parce que du coup, tu te dis...
Oui, parce qu'on peut mettre en doute tout ce qu'elle entend et penser qu'on est exclusivement
parce
en permanence dans sa
subjectivité. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très étrange.
Quelque chose de très étrange.
Parce que pour le coup, elle reçoit un appel où elle croit qu'elle lui parle, qu'elle la voit.
C'est vrai qu'il y a ce doute au début. Est-ce qu'elle-même, elle a des hallucinations parce qu'elle est paranoïaque, ou est-ce qu'on est dans un récit qui va tendre vers le surnaturel, un petit peu à la Personal Shopper? d'Assayas. ça m'a fait penser, ouais, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Parce au début.
Et puis
finalement, donc on a l'impression d'une piste un peu mystérieuse, et puis finalement cette dimension un peu surnaturelle de ces appels qu'elle semble recevoir mais qu'elle ne reçoit pas.
Je compte le voir.
J'en dis pas plus que
okay,
ça.
Donc,
là, je parle des appels qu'elle reçoit. Je parle de, je parle du film de,
okay,
de la Berlinale.
Personnel blogueur. Personnel. Oui, c'est ça.
Mais un peu.
Personnel
shopper. Il y a un peu cet effet-là avec des textos au départ puis des appels après. J'en dis pas plus.
Okay.
Et là, on ne sait pas vraiment. On a l'impression qu'aucune voix n'est vraiment choisie et qu'on abandonne cette question-là. On se recentre sur les problématiques psychiatriques de la sœur, la question du burn-out, le fait simplement de ne pas dormir pendant 48 heures, hein, il parle de ça, de faire des 48 plusieurs fois, donc travailler pendant 48 heures d'affilée, rien que ça, effectivement, ça peut créer un certain nombre de distorsions dans la perception du réel.
C'est clair.
Mais aucune voix n'est vraiment choisie, quoi.
Non, et vraiment, moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était la justesse, quoi. Même, du coup, je sais pas si on est en vrai, parce qu'il y a une grosse différence, quand même, dans notre expérience du film, c'est que moi et Marine parlons allemand, et donc, du coup, même si de temps en temps, parce qu'elle a un petit accent viennois, de temps en temps, je regardais... Surtout quand elle parle à sa sœur, j'ai vraiment l'impression que... Je crois, en plus, qu'ils nous le disent, que l'accent disparaît quand elle parle... quand elle est au travail, parce que un de ses collaborateurs dit « Je ne savais même pas que vous veniez de Vienne. » Donc ça veut dire qu'il n'entend pas son accent autrichien. Moi, j'ai spécifiquement, enfin, son viennois, j'ai spécifiquement entendu son accent viennois quand elle était à l'hôpital et qu'elle parlait avec sa sœur. Donc du coup, voilà, parce que j'ai travaillé pour la télévision nationale autrichienne pendant longtemps et donc j'ai travaillé avec des Autrichiens et notamment une journaliste, Eva Tfahor, dont je parle beaucoup beaucoup en ce moment parce qu'elle a disparu, et c'est vrai que j'ai reconnu exactement le ton, et il y a vraiment quelque chose dans la justesse du business talk. Je sais pas si t'as remarqué le nombre de mots en anglais qu'ils utilisent et la façon dont ils l'utilisent, de toute façon c'est vraiment, mais c'est exactement comme ça qu'on parle dans le business. J'ai une amie qui a travaillé pour la Banque Européenne à Francfort, et je suis allée voir plusieurs fois à Francfort, et je me suis retrouvée dans des after-work parties, qui sont les drinks à partir de 18h le vendredi soir, et t'avais que des avocats et des banquiers, et ils parlaient exactement comme dans ce film. Ça m'a vraiment fait
Tony Erdmann, qui
avait un petit côté comme ça
en compétition à Cannes en 2016, avait ce côté-là, puis on était dans le même style de personnage féminin. C'est vrai qu'il y a complètement des résonances entre les films.
Et du coup, il y avait aussi déjà ce truc-là, mais les fringues, puis surtout ces femmes germaniques et la façon dont elles sont, le professionnalisme à l'allemande, quoi, qui est très... où il y a une espèce de froideur et de sérieux, et de vêtements extrêmement sobres, extrêmement ajustés. Il y a vraiment quelque chose de très...
Ce qu'on voit dans le film aussi, c'est des femmes extrêmement minces, ouais, qui s'affament à plusieurs moments, où elles mangent plus tard, mais elles ne mangent pas pendant les repas... les repas de travail, les repas d'affaires. Donc il y a quelque chose dans l'hyper-contrôle du corps et dans...
Ah oui, il y a
une
façon
de se faire souffrir physiquement, le rapport à la salle de sport.
Passe le stress et tout ce truc dans la salle de sport. C'est cool.
Avec écrit devant la salle de sport « Fitter, happier, more productive » que moi et Marine, nous connaissons d'un track de Radiohead, ou avec un robot qui parle de comment avoir une vie régulée. Enfin, on est sur quelque chose de... Ouais, le contrôle à tout point de vue est hyper... Et hyper présent, quoi. Et non, mais du coup, il y a plein... C'est vrai, il y a plein de choses, mais je suis d'accord, en fait. En fait, ce que tu veux dire, c'est que quand tu dis ça flotte, c'est un peu comme... ça peut... Et ce film ne se crée... le point de vue de ce film ne se cristallise jamais.
Non, jamais.
C'est ça. Je pense que c'est un bon résumé. Peut-être le mot de la fin pour ce film.
Alors, du coup, passons au second. Donc, nous avons su du août. Alors, je ne sais pas prononcer, en plus, apparemment, c'est du norvégien. Je ne sais pas, absolument pas prononcer, donc je pense à l'allemande, mais je vous le dis quand même. Ut og stjæle hester, qui veut dire out stealing horses, en anglais. En français, ça veut dire partie voler des...
Et le film s'est présenté comme ça, en fait.
Voler des chevaux, effectivement. Ils avaient écrit le titre anglais. Voilà, qui est un film... Je n'ai absolument pas les...
Norvégien
et suédois, il me semble. Alors, c'était rigolo, parce que dans les... C'est rigolo parce que quand je tourne la tête pour regarder mes notes, on ne m'entend plus. C'est rigolo parce que c'est un... Dans le financement, il y avait toutes les chaînes que je connais, les chaînes de télé danoises, norvégiennes et suédoises qui étaient citées.
C'est Norvège, Suède, Danemark.
Danemark,
ouais. Et ben, voilà. Et le réalisateur, c'est
Hans-Peter Mulholland.
Hans-Peter Mulholland, dont je ne connais pas la filmographie. C'est tiré d'un livre, ce qui se sent de façon assez évidente dans le film, en fait. Clairement, vu le côté vaguement alambiqué et vaguement laborieux de la narration, je me suis dit « Ouh, ça sent l'adaptation à 3 km ». Il y a notre ami Stellan Skarsgård qui joue dedans.
Qui a déjà joué avec lui dans plusieurs autres films.
Ah, qui a déjà joué avec lui dans plusieurs autres films. Et qui, en gros, quand il est arrivé dans les quelques premiers minutes du film, j'ai fait « Oh, bah quand même, carrément, hein, on va... » Voilà, et mais c'était mon... J'allais dire, c'était mon plus grand moment de bonheur du film, mais en fait, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de très beaux paysages. Un très beau... J'imagine un Norvégien.
Un très beau jeune de Stellan, celui qui joue
le père de... Non,
celui qui joue son père, c'est vrai.
Oui, le oui. Père en 1948.
Fun fact, c'est la 4e collaboration du réalisateur avec Stellan Skarsgård. Skarsgård,
d'accord.
Tobias Santelman.
Cinquième.
Donc voilà, il y a un mec
Tobias Santelman qui est un OT.
Donc ouais, Tobias Santelman, il était très beau et il était tantôt torse nu et donc comment dire. Merci pour ces quelques instants de répit par rapport à une narration. Je vais commencer par mes impressions. Je me suis fait chier comme un rat mort. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu et au milieu coule une rivière et qu'est-ce qu'on s'emmerde. Mais en réalité, c'est surtout parce que j'ai un gros souci avec la crédibilité et l'intérêt des émotions qui sont dépeintes par ce film. Et donc, du coup, voilà, mon impression principale, c'est il a tenté de faire des trucs hyper maladroits, mais hyper genre démonstratifs pour montrer les émotions entre les crises de nerfs des différents personnages, la musique et des images d'animaux qui courent dans la nature. Voilà, tout un tas d'artifices qui n'ont absolument pas réussi à me convaincre que l'histoire qu'ils essayaient de me raconter avait un intérêt. Et au contraire, j'ai même voilà, ça m'a du coup fait réaliser plein de trucs qui m'énervent dans la narration en général, sur la complaisance aussi de l'approche qu'on a du psyché masculin. Voilà. Donc ça, c'était mon impression. Je suis désolée pour Marine qui était à côté de moi et qui a senti
justement, je vais vous donner mon impression et c'était prévu dans mon impression.
Voilà, donc voilà, Marine, vas-y.
Mon impression, c'est donc Bouge d'Assez à côté d'Yael qui a fait des comments de pendant le film parce que ça ne lui plaisait pas. Qui m'a bien fait noter qu'il restait encore une heure de film au moment où j'avais pas besoin de le savoir parce que ça m'aurait permis de ne pas déprimer. Surtout qu'après j'ai vu qu'il restait encore 31 minutes à un moment donné parce qu'il y avait quelqu'un qui avait son téléphone et je vois 31, je suis genre fuck. Je savais que ça durait 122 minutes parce que c'était le seul truc que j'avais des films si ça durait 122 minutes et j'ai genre.
Non, ça c'est le troisième qui durait 122 minutes. Ah non, t'as raison.
Non,
t'as raison. C'était 110 minutes le troisième.
On se concentre sur celui-là, hein. Tu vas pouvoir burn out après. Et donc c'était un peu agaçant en fait. Et puis il y a eu des gens derrière qu'on râlait aussi. Qui genre. Donc ça n'aidait pas. Et je me suis fait chier. Et c'est vrai que moi les oiseaux, les machins, les trucs, j'aime bien la nature. Mais alors là c'était agaçant parce que ça venait de tous les côtés et puis avec le vent, le machin, le truc, la nature, et essayer de montrer que le gamin est pas content ou un truc comme ça, donc t'as le vent qui se met en colère, les chouettes qui volent et des limites des rats et des lapins qui sautent, tu fais genre why.
Je pense que c'est censé être du symbolisme.
Ouais, bah c'est chiant et c'est surtout ça va dans tous les sens et puis et puis c'est relou quoi. Et puis surtout c'est soit tu fais un film et tu montes l'histoire normalement sans avoir une sorte de flashback et surtout t'essayes de comprendre pourquoi tu vas pas bien ou pourquoi t'as fucked up your life parce que je sais pas, genre 42 ans plus tard.
Carole, veux-tu éclairer ce que vient de dire Marine avec ton impression à toi?
Ouais, donc moi j'ai pas aimé le film non plus, hein. J'ai trouvé ça chiant quand c'était pas énervant, il y a beaucoup de moments qui m'ont agacé, j'ai beaucoup décroché. J'ai pensé à autre chose.
J'ai pas raconté l'histoire en fait.
Ouais, le récit est construit de façon hyper étrange. Au départ, donc on voit un homme un homme âgé dans la neige, dans la forêt, il a un accident, et puis là, après, on voit tout son passé, sa jeunesse, et le dernier été où il a été dans une cabane dans la forêt avec son père, parce que bon, voilà, on allait ensemble entre hommes, et on laissait maman et puis la petite sœur à la maison, parce que le père dit que quand il y a des femmes autour de lui, il n'arrive pas à penser. Déjà, ça commence bien. Ok, bon, on va pas être copains.
Et là, il dit, mais ça, je pense que ça ne s'appliquait pas à toutes les femmes.
Parce qu'évidemment, il va y avoir une femme dans l'histoire qui va semer la discorde entre les hommes et les hommes en devenir. Bon, bref. Non, je trouve que ce film ne rend vraiment pas service aux hommes.
Ah, mais pas du tout.
Mais pas du tout. Et je trouve ça limite insultant, en fait, pour les hommes, ce film, dans ce que ça montre de ce que ça construit sur la masculinité. Parce que la représentation importe aussi pour les hommes.
C'est clair.
Et là, je trouve ça assez ignoble, en fait, comme proposition pour eux.
En fait, c'est Boys Will Be Boys dans les pires images qu'on peut avoir de ça, quoi.
Et donc, on a ce récit de la jeunesse de ce garçon avec son père dans la forêt et la relation avec une autre famille voisine. Les deux pères... abattent des arbres pour... comment ça s'appelle en français, ce qu'ils font avec les arbres là, ils vont embarquer tous les troncs sur la rivière.
Des lumber.
Oui, le lumber, je sais pas comment ça s'appelle, le bois que tu coupes, quoi.
C'est des bûcherons, hein.
C'est des bûcherons, donc ils coupent déjà, plein de troncs, ils les préparent et...
Pas que les deux pères, hein, tout le monde.
Après, la femme, oui, la femme participe aussi, l'épouse du deuxième, et donc le jeune garçon dont on suit l'histoire, l'adolescent dont on suit l'histoire. Et donc autour de cette activité-là, de préparation des troncs et de parcours des troncs le long de la rivière jusqu'à
Oslo. Non, stock. Bah non, du coup c'était pas.
Parce que la géographie est pas claire au départ dans le film.
Non mais il y a
la temporalité est pas claire.
Pourtant il y a des panneaux.
Le côté, on sent on adapte une œuvre littéraire. Peut-être qu'on va essayer de trouver des équivalents cinématographiques à la plume de l'auteur. Et très clairement, ça ne fonctionne pas du tout, pour le coup. Ça peut parfois fonctionner. Hein. C'est un exercice de style très complexe, très fin. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, pendant très longtemps, on est perdu dans certains enjeux, dans l'histoire des personnages, dans les allers-retours entre le présent et le passé, ce qu'on voit du présent... quand le narrateur finalement est âgé et assez peu utile, très confus, puisque des personnages de son passé réapparaissent, mais on met du temps avant de nous les identifier clairement.
Et puis il y a une voix off.
Alors voilà, la voix off, franchement,
alors,
arrêtez avec la voix off à outrance.
J'ai proposé une décision. Une décision, on va créer un permis de la voix off. C'est un peu comme le permis pour les voitures.
On avait dit un permis du flashback aussi.
Voilà. Tout cinéaste n'a pas le droit d'utiliser une voix off, il doit prouver qu'il en est capable. Sinon, interdit de voix off, interdit de flashback.
Bah, là, le flashback, pour expliquer l'histoire flashback...
Dans le flashback.
Le flashback dans le flashback.
D'un coup, j'ai rien capté.
Hyper explicatif, mais en 2 minutes, pour dire « Ah, en fait, ça fait une demi-heure qu'on vous balade. » Et du coup, tout est hyper confus. Globalement, on comprend les choses dont on se doute, mais c'est quand même hyper confus, hyper nébuleux.
Bah, la révélation est quand même énorme.
Et tout d'un coup, on fait un flashback en 2 minutes, quoi.
On voit un mec et une nana qui sont... donc, une nana... Alors, en plus, parce qu'il y a tout le côté dramatique du début, on faudra parler aussi, mais il y a un mec et une nana qui, clairement... Donc, la nana vient de perdre un de ses enfants et lui, c'est le voisin. Et clairement, la façon dont ils se regardent, tu dis qu'il y a peut-être un truc qui est en train de naître. Et ensuite, donc au bout de 20 minutes, il t'explique que, en fait, en 43, donc ça se passe en 48, le premier flashback, et qu'en fait, en 43, ils ont dû fuir les nazis parce qu'elle avait essayé de faire passer un prisonnier. Et du coup, ils ont passé 2 ans ensemble en Suède en attendant la fin de la guerre.
C'est quand même pas rien, c'est quand même un gros dossier. Donc on nous balance ça.
Pendant qu'elle, ses trois enfants, film, du coup, ses trois enfants étaient restés avec son mari, qui était un peu responsable du fait qu'elle s'était fait choper par les nazis. Donc,
en plus, oui.
C'est bien. On sait pas trop pourquoi, c'est tout d'un coup, l'explication, c'est... Il ne sait pas ce qu'il lui a pris, mais il a décidé de ne pas protéger ses traces. What ? Mais les hommes sont vraiment...
À ce moment-là, il s'est tiré une balle dans le pied, on va dire, ce qui symboliquement est annonciateur de ce qui lui arrive après, parce qu'il va avoir un petit problème de pied et de jambes.
Mais alors donc, du coup, après 2 jours à imaginer qu'il va se faire passer plein de trucs horribles chaque fois qu'on regarde un film, en se disant, ça y est, le truc hyper dramatique, merde, ils vont plonger dedans. Donc dans le premier, dans le deuxième film, on a vraiment eu cette peur qui tombe dans du mélodrame facile avec ça y est, maintenant il va tomber de la fenêtre, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Et ben là,
bingo,
il tombe dans tous les pièges.
Tous les mecs.
C'est genre, c'est tout d'un coup, il y a un ralenti et il arrive et tu sais, il y a un des enfants qui va mourir. Bingo. Et en plus, c'est sous-traité.
C'est nul. Chaque accident, chaque trahison, chaque révélation.
Non, mais et le pire, c'est quand même que donc c'est un gamin de 15 ans qui découvre que le petit frère de son pote s'est fait assassiner par son jumeau parce que son pote avait laissé un fusil traîner. Truc sympa. Ensuite, il se passe tout un tas de trucs, mais le truc qui est traumatique, c'est le jour où il voit que son père embrasse la mère des jumeaux, que lui trouvait bien bandante du haut de ses 15 ans, et du coup, là, t'as une musique, genre, l'apocalypse est arrivé et il court dans la forêt parce que c'est le vrai trauma qui change sa vie. Et t'es là, really? De tous les trucs traumatiques qui s'est passé dans cet été, le truc le pire, c'est que la nana, la femme que tu convoitais
du haut de tes 15 ans, sur laquelle tu fantasmais en tant qu'adolescent,
en fait, non, elle embrasse ton père. Puis en plus, à aucun moment, ce truc est vécu comme ton père trompe ta mère. Parce que ça aussi, jusqu'à la fin, t'as pas compris
la mère,
que le père...
on s'en fiche complètement. Bah en fait, la mère, on l'a
la façon dont
oublié.
Tu parlais, qui était parti en vacances
on
avec son père,
du tout.
C'était pas clair que c'était une famille unie. Pour moi, c'était une famille déjà désunie. En fait.
Je crois qu'il était parti avec son... Enfin, je me suis dit, il est parti avec son frère, son fils, et qu'il a laissé les autres parce qu'il voulait les voir, quoi.
Mais pour
et
moi,
qu'il a choisi le fils, quoi.
Mais on peut avoir l'impression de vivre une séparation,
tu vois. Ouais. Mais ça faisait ça, quoi. Ça faisait vraiment style, j'ai choisi le fils, quoi. J'en ai rien à foutre des nanas, quoi.
Et en fait, je sais pas si vous suivez ce que j'ai l'impression, du coup, ça... C'est vrai que quand on raconte cette histoire et qu'on essaie de la raconter, il y a.
Mais
y a
parce que c'est n'importe c'est quoi, ça part dans tous
confus,
les sens,
ça part
c'est
dans
rien
tous les
mais
sens.
Mais surtout, ce qui est horrible, c'est vraiment le côté, mais. Whiny bitch drama queen, quoi. De ces mecs. Non, mais oui, et de l'autre, qui 50 ans plus tard continue à faire. Oui, il m'a volé ma vie parce que lui, il a eu mon père, alors que moi, j'ai pas eu mon père. What? Et sans plus. Excuse-moi, mon gars, tu sais où elle était, la rivière? Ton père n'est jamais revenu.
Il est jamais.
Mais c'est bon, tu prends ton train. Tu prends un bus et tu vas le chercher. D'ailleurs, lui-même, on découvre à la fin du film, une fois qu'il a perdu sa femme, il a abandonné sa fille, donc qui est adulte, mais quand même, il a aussi disparu. Parce qu'à un moment, sa fille débarque en disant « Ça fait des mois que je te cherche dans toute la Suède et heureusement que j'ai fini par chercher en Norvège. » Sans parler du fait que je n'ai pas compris où ils étaient, si la maison était au même endroit que l'autre maison. Sinon, pourquoi la maison du voisin, c'est l'autre gamin avec qui ils étaient voisins à l'époque, s'ils sont pas du tout au même endroit?
Ça devient un sketch. Bon, temporalité éclatée, géographie confuse.
Mais le pire, c'est quand même les breakdowns des gamins chaque fois qu'il arrive un truc et qu'ils font... Je vous décris, mais c'est un peu ça.
Un œuf. Bah, non, mais temps, le premier trauma du premier gamin, qui son premier trauma, oui, mais... il a un vrai trauma, mais le trauma est horrible.
Il y a quand même un gamin qui accidentellement tue son frère avec une arme,
oui,
et on ne se soucie pas du tout de lui, de ce qu'il ressent et la façon dont il vit avec ça.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est même lui qui existe toujours adulte. Et qu'on retrouve donc vieux.
Oui, qu'on retrouve et on se préoccupe pas.
Et qui annonce que son grand frère est revenu inopinément quand il avait 19 ans et qu'il a repris la ferme.
Ouais.
Du coup, il est parti en colère. Et là, on lui demande, et ta mère, je sais pas, je l'ai pas revue depuis que j'avais 20 ans. Je crois qu'elle est encore vivante, je sais pas.
Okay.
Et donc le mec,
ça n'a rien à foutre en fait.
Il y a vraiment le côté, j'ai été blessée
les
dans
mecs
mon
se
égo,
barrent.
Parce que c'est moi qui avais le pouvoir, on est venu me reprendre le pouvoir. Je suis pas content, je pars en claquant la porte.
Et
je
sachant que leur père, donc aux deux jumeaux et aux potes et au machin, le vrai mari de la meuf, qui est pas mal, qui est vraiment pas une. Enfin, elle est quand même touchante à l'écran, complètement objectifiée par la caméra, mais quand même. Et donc quand même, quand le gamin de 9 ans tue son frère, le grand frère va l'annoncer au père, qui, trouvant le corps, le met sur un lit, va chercher sa femme qui est dans la famille, fait tout le chemin.
Il lui dit rien de ce qui est arrivé.
Ne lui dit rien de ce qui est arrivé. Elle arrive tout sourire. Et du coup, les deux gamins réalisent qu'ils vont devoir annoncer à leur mère que son troisième fils est mort. Et elle comprend qu'il y a un problème parce qu'elle dit « Il est où le gamin ?» Et le père, qu'est-ce qu'il fait ?
Il
part dans la forêt. Et t'es là. Non mais en fait, c'est quand même que des mecs qui
en
se battent.
C'est un peu ce film, une histoire de la lâcheté.
Non mais, et une histoire de la toxicité masculine. Parce que quand même, je te rappelle que la première scène, c'est le gamin qui dit « Je me souviens de mon père, c'était le plus fort, c'était le plus beau, c'était le machin, voilà. » Et tu le vois en train de couper, c'est des orties, hein, c'est ça ? De couper les orties avec une faux. Et le père, il dit « Bah pourquoi tu utilises une faux ? » Bah, ça fait pour pas me piquer. Il fait, ça fait que mal si tu décides. Et là, il prend à bras nu et il coupe toutes les orties. Et après, tu vois comment il a des piqûres tout le long du bras. Et il est hyper fier de lui. Et le mieux, c'est que c'est la dernière phrase du film. Hein. C'est toi qui décides quand ça fait mal, ça, un truc comme ça. Et t'es là.
Au secours.
Au secours. Et puis pareil, quand il dit à son fils, c'est pas grave de penser. Tu vois, quand il attrape son fils.
C'est un mec.
Et qu'il lui tire les cheveux ça. En lui parlant pour lui parler. Mais en fait, il lui tire les cheveux, il lui fait mal. Et il lui fait, tu as le droit de penser. Tu peux penser ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est. Enfin, un truc genre. Ça te fait pas avancer, ça te sert à rien, donc tu laisses les choses comme elles sont, mais t'as le droit d'y penser. En gros, t'as le droit de me détester dans ta tête du moment que tu mouftes pas, quoi.
Mais refoule bien, en fait, toutes
tes émotions. C'est ça, et t'es là. Great! Et puis en plus, ça se termine pas, ce film aussi, c'est pareil. Parce qu'en plus, il y a plein de fois où je crois qu'il va mourir dans la neige. Je me dis, suicide by snow.
Le seul truc positif, c'est qu'il y a des beaux chiens.
Non, mais il y a des super beaux paysages. Et puis le père,
oui.
Il est hyper.
Oui, non, moi j'ai toujours envie d'aller faire un petit séjour dans une cabane dans la neige, c'est clair. Mais.
Moi j'irais plutôt en été, mais bon.
Non, moi j'ai.
Mais après, c'est beau tous ces troncs d'arbres là, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Rien n'a aucun sens dans ce film. Mais je crois que. Il y a deux moments où j'éclate à rire. C'est un des moments où il y a une chouette qui s'envole au ralenti. Ça, j'ai explosé de rire. Et il y a le moment où après que le gamin ait tué son frère. Il sort de la maison et il y a un espèce de cadre où ça fait la colline à des yeux, enfin un truc comme ça.
Ah ouais, c'est ça, moi ça m'a vraiment fait penser au film d'horreur.
Parce qu'avant de me plaindre, j'ai surtout rigolé au début du film.
Oui, elle a rigolé aussi. Oui.
Et j'ai fait tomber ma bouteille d'eau sur le pied de Marie.
Oui, elle m'a assommé avec son. Assommé le pied, d'ailleurs, elle m'a fait tomber sur le pied où j'ai mal, hein, mais bon, ça, je ne l'ai pas dit.
Donc voilà, I'm so sorry, darling.
Ça, c'est ok. C'est pour ça que maintenant je souffre d'ailleurs.
On a beaucoup fait souffrir Marine aujourd'hui sur le.
Ah oui, c'est vrai, toi, tu m'as essayé de m'arracher le doigt.
J'ai en passant sous un.
D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça m'avait touché l'autre doigt parce que j'ai mal à ce doigt là maintenant.
Mais parce qu'en passant sous un ruban pour rejoindre les filles dans une file d'attente, j'ai défait le ruban et vous imaginez les poteaux avec les rubans, il y a des petits bouts en plastique avec les encoches. Et l'encoche lui a claqué sur le doigt et c'est la deuxième fois que je fais ça, je confesse. Donc on vit dangereusement à la berline.
Moi j'apprécie surtout que vous le dites, que je suis la victime, ça me fait plaisir. Le grand silence.
Donc on a fini sur Out Stealing Horses. Non mais en même temps il y a vraiment un peu l'impression, tu vois, c'est le sixième film, ça y est on arrive enfin à un film de festival comme on les déteste.
Tu penses que c'est le film dont il parlait
Je pense que c'est le film dont il parlait parce que, et on a donc toujours étudié les collègues radiophoniques Luxembourg qui ont dit, où j'ai dit, oh là là, celui-là, je pensais pas que ce serait aussi émotionnel. Et il fait, ah non, mais là, c'est bon, le prochain, c'est un truc, on va bientôt retrouver les films chiants, longs et chiants. Et il dit, je crois que c'est le prochain. Et en fait, il a dit, ah non, c'est pas le prochain. Et il pensait à Undog. Il dit, non, c'est pas Undog. Effectivement, je pense que c'était Outstanding Horses. Je pense qu'il a dû voir d'autres films du réalisateur, peut-être. Parce qu'en plus, c'est même pas un premier film.
Non, c'est pas un premier film.
Non, après, le réalisateur
a
aussi.
Il a le même âge que Stellan Skarsgård.
Juste pour info, le réalisateur a aussi travaillé sur des trucs qui en France ne sont sortis qu'en e-cinéma. Les enquêtes du département 5, Délivrance, enfin, une suite de thrillers danois. Donc,
il était à la Berlinale en 2004 en tant que guest. Juste guest, donc il part en. The Beautiful Country, un truc, en 2004.
Bon. En tout cas, on passe notre chemin.
Voilà, c'est clair. Alors, du coup, j'avoue que là, j'étais là, c'est bon, j'ai trouvé mon bottom movie, quoi.
Ouais, tout peut encore arriver.
Ouais. Ah non, c'est déjà arrivé.
And then, nous sommes allés voir, Marine et moi, Fatih Akin. Son dernier film qui s'appelle The Golden Handshoe, qui veut dire The Gold Glove, Golden Glove. Nous allons entièrement spoiler ce film, donc arrêtez-vous maintenant,
sauf si vous voulez vraiment savoir s'il faut aller le voir ou pas, vous pouvez continuer.
Donc non, faut pas aller le voir, en tout cas je ne recommanderais à personne de voir cette chose. Et donc voilà, c'est. Alors, on va. L'idée, c'était d'essayer de rendre justice à ce moment de cinéma, comment on l'a vécu, de façon parce qu'on en a. Quelque part, on a essayé de ne pas en parler, mais c'était un peu très difficile de ne pas le faire. Donc, je décrirai déjà, je vais utiliser un mot avant d'en dire beaucoup plus. Et le premier mot, c'est torture.
Ok.
Expérience cauchemardesque de cinéma. En réalité, alors on a tergiversé, est-ce que Transit c'était pire à vivre et tout. Bon, alors Transit m'a plus énervée au niveau de sa stupidité et son incohérence. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la torture physique.
Visuel.
Et de façon, je trouve, totalement inutile et gratuite. Enfin, ça ne me sert à rien d'avoir été torturée par ce film. Donc voilà, ça c'est à part m'énerver et m'engueuler avec des gens. Je suis sûre que je vais trouver des gens pour m'engueuler avec ce film.
Et il faut le dire, le meilleur moment.
Et voilà, non, ça je voulais le dire après. Mais donc déjà, donne ta première impression à chaud.
Ma première... Mais... c'est pas facile.
Bon alors je dirais juste, Carole, sache que le meilleur moment du film, mais vraiment le meilleur moment du film, et c'est vrai, c'est un moment magique où une nana fait un truc qui nous fait plaisir, c'est-à-dire qu'elle prend, elle met sa main dans un pot de moutarde et elle fout la moutarde sur la bite du mec principal, et ça quand même c'est un moment jubilatoire pour tout le monde.
Voilà.
Ok.
Moi j'aimerais que j'avais botté en touche sur Fatih Akin pour aller voir des courts-métrages, j'en parlerai après. Fatih Akin, j'ai vu ses deux précédents films en festival à Venise et à Cannes, et c'est deux très mauvais souvenirs de festival, donc je me disais que ça pouvait être.
T'as vu le film avec Diane Kruger?
J'ai vu le film avec Diane Kruger.
Moi j'ai pas vu, j'ai entendu que des choses positives dessus, mais je l'ai pas vu.
Moi j'ai pas du tout aimé ce film, mais je peux revenir dessus après. Oui, donc,
non, voilà.
On va dire que j'ai l'impression qu'on est passé dans, encore
le
dans
le.
C'était The Cut.
Ah, The Cut, oui, d'accord.
Avec Tara Reim.
Ah comment on se retrouve? Alors, je remercie celle que tu ne sois pas venue. Je ne suis pas sûre que tu aurais supporté.
Je pense que tu serais sortie.
Je pense que tu serais sortie. En gros, c'est tenté, hein. Un monstre. Qui fait des choses monstrueuses pendant 2 heures.
C'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est une histoire vraie.
C'est donc c'est un vrai serial killer qui a existé dans les années 70, qui a grandement assassiné des femmes à moitié prostituées, alcooliques, destituées, enfin, qui vivaient à moitié dans la rue, et voilà, de façon complètement désordonnée, au gré de sa colère. La première scène, c'est une nana morte dans son lit. Qu'il dépèce pendant 10 minutes. Donc ça, c'est...
Il essaie d'abord de mettre dans sa poubelle, de sentir qu'elle passe pas, donc finalement...
Et du coup, alors en plus, le truc, la nana est recroquevillée dans son lit. Donc d'abord, tu vois que ses fesses, voilà... Un peu un flashback de Hound Dog au début, si t'as les fesses nues d'une nana. Sauf que justement, le flic tout seul avec les fesses nues, il fait exprès de mettre le...
Ah, c'est moi.
De mettre le drap pour couvrir. Dans Hound Dog, il y a vraiment ce truc où j'étais là, pourquoi on voit l'arrêt de ses fesses sous le drap, et en fait, le policier qui est à côté du corps, ça le dérange, et donc il fait en sorte justement de la couvrir mieux avec le drap dans Hound Dog. Là, et donc tu vois, ses fesses, c'est la nana, alors au début j'ai cru qu'elle était en train de la violer, j'étais là, super début.
Au début,
elle était déjà morte.
Je pensais qu'elle dormait avec.
Et donc il essaie de la mettre dans un sac plastique, il n'y arrive pas, et du coup, dans la scène d'après, elle est allongée sur un sac plastique sur le sol, mais du coup, les bras éloignés du corps. Et toute droite, alors qu'elle était clairement morte, recroquevillée. Donc, comment tu m'expliques, il a réussi à l'allonger. Donc, c'est pas possible. C'est juste pour le désir du réalisateur. Et là, il la déshabille entièrement. Tu peux la voir complètement nue. Et elle est comme ça, exposée nue pendant 10 minutes, pendant qu'il essaye d'abord avec un truc. Puis après, il prend une scie, puis il essaie de faire son visage. Puis finalement, il picole. Enfin, ça, c'est les 10 premières minutes du film, quoi. Et
la... Il te cache la tête pour pas que tu vois... Parce qu'ils arrivent
et... Au début, tu vois sa tête, puis après, la caméra se retourne et tu vois plus la tête et tu vois juste des giclées de sang, ce qui n'est pas logique non plus parce qu'elle est morte, donc il n'y a pas de giclées de sang. Enfin, c'est vraiment que pour le plaisir
de montrer,
de créer ce truc-là.
Pour donner un truc gore et un truc.
Voilà, et gratuit. Ensuite, c'est que des trucs de torture de nana, de machin, donc des nanas alcooliques et des. Il va donc dans son bar qui s'appelle Zum Golden Ranchu où il y a des hommes et des femmes âgés, alcooliques. Qui sont en déchéance humaine totale, mais il y a quand même quelque chose sur, enfin franchement, la façon dont les femmes sont traitées par rapport aux hommes et la façon dont ce personnage principal has agency, tu vois, il existe et il agit. Et le pire du pire, c'est qu'au milieu du film, il décide d'arrêter de boire, donc il a tué 2 nanas à ce stade-là. Donc en plus, c'est vraiment juste des coups de colère, c'est pas un serial killer.
Il les coupe en bouts. Au début, tu le vois sortir, il en sort, il balance 2-3 bouts. Dans le parc, dans le Spielplatz derrière, tu sais pas où est-ce qu'il est. dans une poubelle ou un peu importe, et finalement il en reste plein et il est
il est dans un grenier.
Il est dans un grenier, donc en fait il y a des portes et en fait il les a camouflées avec du scotch, etc. Mais c'est autour de lui, donc, sous les toits en fait. Il a des bouts de corps, quoi.
Et du coup ça pourrit, ça du coup à un moment il a besoin de mettre le deuxième corps et donc il ouvre le truc et donc il gerbe quand il sent l'odeur, donc
parce
merci
que, bien sûr.
Et en plus vu que c'est un monstre, dans son appart il y a que des photos de nana à poil qui tiraient de trucs de cul, donc c'est tapissé de femmes nues qui se masturbent à moitié tout le temps. Et donc en plus il arrive jamais à bander, donc du coup chaque fois qu'il essaie de coucher avec une nana il finit par faire par utiliser d'autres ustensiles pour faire ce qu'il y a à faire, enfin tu vois on est,
donc elle est enfin...
Je suis dégoûtée à vie des saucisses. Alors, merci le film.
Je sais pas comment les auditeurs vivent ce passage du podcast, mais moi je suis physiquement mal en fait à mesure que vous me décrivez le film.
Mais en fait c'est
ça, rien que le récit que vous en faites me fait mal au ventre, me rigidifie les bras.
Je t'avais pas dit qu'on allait le voir demain à 18h.
je veux préciser que je suis revenue plus tard que les filles à la maison, parce que je fais une autre projection. Quand je suis entrée, j'ai vu Marine, et en fait, la tête de Marine, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. J'ai cru que quelqu'un était mort. À sa tête, je me suis dit, c'est passé un truc, les filles ont un coup de fil. J'ai cru que quelqu'un était mort. Elle me dit, non, mais là, c'est le dernier film, on va en parler, là, faut qu'on fasse juste le podcast, parce que ça va pas.
Faut se décharger.
Et en fait, oui, donc effectivement, quelqu'un était mort. Beaucoup de gens à l'écran étaient morts, et le cinéma a l'air d'être un peu mort dans ce film. Quoi.
Le truc, c'est que t'as tout ce qui se passe dans le bar, en fait, dans le Kneipe, ce qui est vraiment le bar, ça fait genre, ça serait une sorte de PMU dans les années 70, tu vois. Mais le truc vraiment pauvre un peu un peu délabré, un peu crado en plus. Et donc avec tous ces gens qui sont bourrés, qui sont... toutes ces femmes, ces prostituées qui sont... qui boivent et qui n'ont plus de dents, qui sont... moches, genre elles sont vraiment,
ils les enlaidit,
elles sont très enlaidies,
elles sont monstrueuses, en fait tout le monde est
monstrueux, c'est vraiment tout le monde est monstrueux,
mais les mecs
sont pas super non plus, ils parlent entre eux, ils ont quand même un, je dirais pas une pride, pas une
fierté,
pas de fierté, parce que bon,
ils ont une certaine dignité,
et puis ils rigolent et ils nous font rire. Donc ce que disait elle, c'était que elle disait que ça donnait un côté humain, mais effectivement oui, ça donne un côté humain.
Les hommes sont humanisés par leur
quand t'es dans ce truc, c'est un truc, ça donne un côté humain pour essayer d'oublier le fait que t'as ce pervers serial killer monstrueux,
avec eux, hein.
etc. qui est à côté, et je donne un coup dans le pied d'elle, c'est ça que je dis, pardon, pas à vous, voilà. Et ça, c'est très dérangeant parce que t'as l'impression qu'il essaie de nous.
Et ça, surtout, t'as l'impression que ces femmes, elles méritent pas mieux et elles veulent pas mieux.
Ah, mais complètement.
Il y a ce truc quand même. Enfin, tu vois, c'est un peu parce que tu vois, de façon dont elles acceptent, à un moment, il leur amène trois chez elles, il y en a une qui tombe par terre et il essaie de la secouer, il n'y arrive pas, et du coup, il dit laissez-la par terre. Du coup, il en ramène deux et il y en a une qui commence à attaquer. En lui disant, d'abord, elle lui dit, vous allez vous lécher, machin, il essaie d'attaquer, machin. Toujours est-il qu'elle arrive à s'enfuir, et l'autre, elle reste. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu hyper étrange. Et alors, le pire du pire, c'est qu'au milieu du film, il décide, il se fait renverser par une voiture à un moment, je dis, yes, merde, il reste une heure de film.
c'est limite, on passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment, il passe sur les jeunes, il y a les deux jeunes.
Le gay, ouais, de Willy, enfin. Passons, tout ça pour dire que il décide d'arrêter de boire. Et donc tu le vois, une scène où il souffre d'abstinence, d'avoir arrêté l'alcool dans son lit. Et puis la scène d'après, il a un nouveau boulot de veilleur de nuit. Et il rencontre la nana qui fait le ménage, qui est
qu'il a failli tuer.
Oui, parce qu'il a entendu le bruit, il a sorti le flingue, bon, passons, mais ça c'est. Voilà. Tout ça pour dire qu'il rencontre une nana qui est assez gentille avec lui, qui lui dit bonjour, qui lui dit au revoir et tout. Et qui est assez sympa, et en fait le deuxième,
qui est
joli. Oui, assez joli, et deuxième et troisième fois où il la voit, deuxième fois son mari à elle est là, et en fait il fête son anniversaire à elle, du coup elle dit viens boire un verre, il refuse de boire mais il fête l'anniversaire avec eux les deux, le mari et la femme, mais se bourrent la gueule de façon extrême et hyper étrange, du coup ça veut juste dire
ils sont dans le truc, non mais ils sont au boulot.
Ils sont dans une espèce de truc de elle fait cerner, c'est des bureaux, c'est des grands bureaux.
Des bureaux, qu'est-ce qu'ils font là dans le truc, machin, etc.
Enfin, local, pourquoi est-ce qu'ils font la fête là ? Ne m'en parle pas. Tout ça pour dire que finalement, la coup d'après, elle est triste et donc elle va le voir dans son petit
avec une bouteille.
Machin avec une bouteille et elle le pousse à boire en fait. Et c'est comme ça qu'il retombe, qu'il recommence à boire. Du coup, la fois d'après, il essaie de l'attaquer, il essaie de la violer et finalement, elle s'en sort. Mais il y a quand même cette idée qu'il a essayé d'aller mieux et que c'est une nana un peu jolie.
Elle se trouve responsable de sa réussite et de sa monstruosité.
En tout cas, la façon dont le film le met en scène, tu vois. Et vu qu'à aucun moment tu découvres quoi que ce soit, tu vois, il y a une nana qui s'en sort.
Donc en gros,
parce qu'il y a une nana du.
Elle mérite toute d'être tuée. Parce que
du salut, de l'armée du salut qui lui parle et au moment, du coup, il est aux toilettes, elle disparaît. Et tu te dis, putain, elle a été sauvée. Mais du coup, t'en entends plus jamais parler. Enfin, il y a quelque chose vraiment sur le fait de. Et je pense, en fait, c'est un manque. Il y a zéro responsabilité, zéro réflexion et zéro responsabilité sur ce dont ça parle. Et il y avait une nana derrière, parce que moi, je m'énervais. Elle parlait allemand, du coup, j'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai parlé français à Marine et j'ai dit, il y a vraiment zéro prise en compte de la psychologie. Pourquoi ? Enfin, tu vois. Et là, il y a la nana qui dit, oh, je suis pas en français, donc il m'a dit, je suis pas d'accord, parce que quand même. On voit, et d'ailleurs il a dit lui-même, on voit que quand même c'est quand il prend de l'alcool et qu'il machin et tout machin. Je dis oui, mais c'est très primaire quand même. Il fait bah oui, mais on n'avait pas plus d'infos parce que donc il y a eu un gros procès et c'est une vraie histoire, tu vois. Il s'est fait choper complètement par hasard. Il y a eu un feu et ils ont découvert les morceaux de corps. Et en fait, j'avais envie de dire, bah enfin, excuse-moi, mais depuis 1975, il y a eu 2-3 choses qui ont été faites quand même sur la violence et les serial killers, quoi. Enfin, tu vois, le fait qu'à l'époque, l'instruction n'a pas compris pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait ou ne prend pas en compte la vie de ses femmes ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. Et en fait, c'est tiré d'un livre qui a été fait en 2016 sur l'affaire. Mais tu vois, il y a vraiment quelque chose de... Puis en fait, il y a plein de choses idiotes. Au début, il y a une très jolie nana de 17-18 ans où il y a une petite scène où tu la vois avec sa prof qui lui dit qu'elle va arriver à rien si elle...
Si elle veut pas apprendre.
Si elle veut pas apprendre et qu'elle fait redoubler sa classe. Un truc qui ne sert à rien parce que la gamine disparaît dans tout le film.
Attends, on pense que ça, c'est un truc...
Elle ça va être dernière victime,
genre,
en fait.
Ça va être un truc, ça va être une des victimes.
En fait, c'est du teasing parce que du coup, elle croise ce mec, c'est le tueur, qui du coup, après, continue à fantasmer sur elle plusieurs fois. Donc, c'est l'occasion de mettre... l'actrice dans certaines tenues légères dans la boucherie avec du sang et tout, en passant.
Tant qu'à faire.
Oui, parce qu'en fait, il parle d'une autre nana qui est bouchère, du coup, il imagine que c'est elle, enfin, machin. Du coup, il la recroise à la fin où elle se retrouve dans le fameux bar et il la suit juste avant de se faire choper, en fait, donc tu crois qu'elle va se faire tuer. Et quand elle est dans le bar, elle cherche le mec avec qui elle est venue et elle descend dans les toilettes. Donc, elle descend très doucement, mais quand même, notre tueur, il est juste derrière elle, en haut des escaliers. Et une gamine jolie, blonde de 17 ans qui porte des jupes courtes à Hambourg en 1974, elle se retourne pas, elle flippe pas quand elle a un mec, qu'elle sent un mec derrière elle. Je suis désolée, quoi, c'est complètement absurde. Ça veut juste dire un réalisateur ne s'est pas posé la question une seule seconde de l'expérience féminine, mais vraiment pas. À aucun moment ce film ne prend en compte. J'ai l'impression que c'est une projection du fantasme du serial killer et c'est hyper rigolo parce que, et surtout, il s'est fait plaisir. Tu vois, il y a une scène où il étrangle Anna pendant. Voilà. Pardon, mais tu sens qu'il y a un côté sur la mise en scène de l'horreur et de la monstruosité, y compris des corps, y compris comment les nanas sont maquillées, comment les hommes et les femmes sont après l'alcool, avec la sueur et le truc. Enfin, tu vois, vraiment, c'est un truc de, c'est une mosaïque de monstruosité. Et t'es là, what is the fucking point? Je ne comprends pas l'intérêt, à part le fait qu'il s'est clairement qu'il a kiffé créer. Faire de la composition d'images comme ça, mais le but de passer 2 heures à voir ça, ça ne dit rien.
Il y a son frère qui vient, mais ça nous apporte rien non plus.
Oui, non, enfin, c'est juste pour nous montrer qu'en fait, c'est en plus...
Il y a la famille en dessous qui est jouée avec le mec qui joue dans Soul Kitchen.
Parce qu'il y a une famille grecque en dessous de chez lui. Et il passe son temps à dire des trucs racistes sur les Grecs.
C'est qu'il joue avec dans tous les films de... C'est abruti. Non, je voulais pas dire son nom.
Non, mais par contre, là, en fait, on a fait... Non, mais en fait, c'est bon, inexcusable, quoi. C'est inexcusable. Je suis horrifiée. Et le pire, c'est que les 2 séances étaient complètes et donc on a reçu un mail pour savoir qu'il y avait une 3e séance de presse exceptionnelle qui avait été organisée en vitesse dans l'après-midi, quoi.
Et moi, j'avais un très, très mauvais souvenir de The Cut que j'avais vu à Venise, il me semble que c'était en 2014. Qui était hyper mélodramatique avec un héros avec une espèce de chemin de croix du personnage principal, voilà, une masculinité bouleversée, déchirée, avec un Tahar Rahim qui jouait comme une savate, par un réalisateur qui clairement à ce moment-là ne communique pas dans la même langue que lui et qui se rend pas compte en fait de ce que fait son acteur. Et In the Fade qui était à Cannes en 2017 m'avait beaucoup beaucoup énervé aussi. Je trouvais ça donc c'était une histoire d'une femme donc interprétée par Diane Kruger dont le mari et le fils sont tués dans un attentat par un groupuscule néo-nazi.
Et sachant que son mec est, du coup, était de Moyen-Orient, c'est ça ?
C'est ça.
C'est du coup, il retourne l'idée du théâtre de la peur terroriste.
La peur, tout à fait. Et,
c'est pour ça que j'avais envie de
voir. Et là, il y a un procès, et ensuite, en fait, elle va vouloir faire justice elle-même et vouloir. Elle va retrouver et tuer les.
Ah, c'est Kill Bill, en fait.
Ouais, il y a un peu ce truc-là avec une Diane Kruger tatouée de partout en mode badass. Mais c'était hyper glauque, hyper téléphoné dans mon souvenir. Enfin, j'avais trouvé ça. J'avais trouvé ça énervant, quoi. Et le film avait été récompensé. Hein. Le film avait
été récompensé. J'avais entendu des choses hyper fortes.
J'avais été étonnée. Étonnée. On n'est jamais étonné parce que tout est possible, mais ouais, j'avais été déçue, en fait, de cette récompense. Parce que. Moi, je comprends pas ce que. Je comprends pas que cet homme, je sais pas, qu'il y ait autant une hype autour de lui et qu'il continue à faire des films, quoi.
Bah, le truc, c'est que Fatih Akin.
Et tout ce que vous me racontez me morifie, mais littéralement morifie, quoi.
Je te réorifie, de toute façon.
Bah, le truc, c'est que Fatih Akin, je crois que c'est son premier film, ouais, c'est ça. Gegendivan, c'est son premier film. Et Gegendivan, donc, qui s'appelle Head On en anglais, et qui. Moi, je l'ai vu en habitant en Allemagne, tu vois. Et je l'ai découvert, et en plus, bon, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que l'actrice principale ressemble énormément à ma sœur d'accueil en Russie. Donc, j'ai eu l'impression de la voir sur l'écran pendant 2 heures et c'était hyper fort. Et en fait, l'actrice était hyper forte. Il y a un truc sur l'instrumentalisation du corps et la sexualité et tout qui est vraiment prenant. Bon, elle se fait quand même violer dans le film. Hein. Mmh. Du coup, là-dessus, tu es en train de te dire. En fait, ce genre de passage obligé, maintenant, on peut peut-être arrêter. Mmh. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler du viol. Hein. C'est pas la même chose, mais il faut voir pourquoi on en parle et à quoi ça sert. Et après, il y avait des choses personnelles aussi. Enfin, tu vois, elle est aussi survivante. En plus, elle a été plus ou moins... Elle, dans son histoire à elle, c'est qu'elle avait été plus ou moins embrigadée avec la drogue et tout un tas de choses dans l'industrie de la pornographie, mais pas vraiment de son plein gré. Enfin, pas de son... Voilà, donc l'actrice avant le film. Et du coup, le film avait été une espèce de nouvelle vie et de nouveau parcours. Et c'était un premier rôle dans un film comme ça, et c'était hyper fort et tout. Donc moi, j'avais beaucoup aimé ce film. Il y avait quand même 2-3 trucs problématiques, notamment d'un point de vue psychosexuel, on va dire. Le fait qu'il y ait une histoire d'amour qui soit envisagée entre elle et le coloc. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est d'une nana qu'on a marre de la famille. Tu l'as pas vu, Helen ?
Non.
Donc c'est une jeune femme d'origine turque qui est complètement enfermée par les décisions de sa famille, qui ne peut pas avoir de vie en fait, et qui a envie d'avoir une vie, qui a envie de s'amuser, qui a envie de coucher avec des mecs, qui a envie de faire la fête. Et du coup, passe un deal avec un mec, un repris de justice d'ailleurs, mais qui est plutôt gentil finalement, mais qui a une quarantaine d'années, tu vois, elle en a 19. En gros, de l'épouser. Et comme ça, du coup, ils prennent un appart et ils seront en fait coloc, mais les parents vont plus la faire chier parce qu'elle est mariée, quoi, et elle peut faire ce qu'elle veut. Et donc, elle s'amuse, effectivement, elle enchaîne les mecs et tout. Et finalement, ils tombent un peu amoureux l'un de l'autre, donc c'est un peu problématique. Et en fait, mais surtout, le truc hyper problématique du film, c'est que lui, vu qu'il tombe amoureux d'elle, il décide qu'il est jaloux, et du coup, il tue son mec du moment, alors qu'en fait, elle était sur le point de se mettre avec lui, de toute façon. Enfin, de larguer son mec et de. Donc, il tue, du coup, il passe des années en prison. Puis du coup, elle part en Turquie. Du coup, elle se fait violer. Enfin bon.
Le rapport à la violence, quand même, de ce réalisateur est...
Voilà. Mais c'est pour ça que Soul Kitchen, c'était sympa. Hein. Parce que Soul Kitchen, c'était dans une cuisine. Donc, il faisait à manger. C'était moins
truc. Même si c'était un peu tiré par les cheveux sur plein de trucs.
Mais celui d'après, donc avant Soul Kitchen, parce que Soul Kitchen, c'est l'autre que j'ai vu. Il y en avait un qui s'appelait genre Of the Undersighted.
Of the Undersighted.
Donc de l'autre côté. Et ça, j'avais aussi entendu plein de très belles choses sur ce film-là. Et il y avait quelque chose aussi de fascinant d'avoir un mec avec des origines turques. Voilà, du point de vue allemand, il y avait vraiment quelque chose de redonner du souffle au cinéma allemand en passant par l'expérience turque. Et vraiment, en prenant en compte des personnages, enfin des personnages allemands, turcs, turc-allemands, enfin, tu vois, qui sont vraiment entre les deux cultures,
c'était hyper fort. J'ai l'impression que la légitimité qu'il a aujourd'hui, la reconnaissance, est beaucoup liée aussi à son identité, mais c'est pas son identité... ne doit pas, ne suffit pas quoi.
La presentation matters, il faut pas faire n'importe quoi non plus.
À un moment donné, s'il fait de la merde, faut arrêter de se ruer sur ses films quoi. Et là, ça semble devenir quand même, enfin, c'est une évidence que c'est de plus en plus problématique.
Bah surtout, il y a un peu l'autre truc problématique, c'est qu'on voit plein de films avec 5-6 panneaux prod pour, tu vois, tu sens des financements compliqués à monter. C'était lequel qui avait le plus de panneaux de production? Je crois que c'était The Kindness of Strangers où t'avais genre
ça n'arrêtait pas.
Ou ça n'arrêtait pas, il y en a une 15 trucs en prenant. Et eux, là, t'avais juste Warner Bros, Bambero, qui est un truc allemand, et Pathé.
That's it.
Et là, j'ai osé et faire le...
Money.
J'ai fait genre... make it rain, le geste avec les deux mains, vous imaginez par le son. J'ai fait un peu ça, ça va Fatih Akin, on s'en marre pas.
Peut-être que je peux parler un petit peu de films qui ont beaucoup moins de budget que ça.
Alors voilà, du coup, parlons maintenant, donc quatrième chapitre, maintenant qu'on s'est bien déchargé, je suis désolée pour la teneur de la conversation.
C'est pas notre faute, ça a fait des films.
Voilà, c'est ça. Et donc, toi, tu es partie, tu viens de le déchirer, de sortir du programme.
Marine a déchiré la page... concernant ce Golden Globe.
Ah non mais putain, quand ils vont gagner l'ours de je ne sais quoi, je vais tuer quelqu'un. Enfin, I won't, I just cry.
Bon, on n'y est pas, et moi j'aimerais vous parler donc d'un...
Donc toi t'es allé voir un truc de court-métrage, alors sachant que moi en plus je me suis moquée de toi depuis, enfin je me suis dit, j'ai fait des grimaces depuis le début où tu parlais court-métrage, parce que moi techniquement j'aime pas les courts-métrages, donc j'ai dit plusieurs fois, et
c'est
de la torture
de voir des courts-métrages, c'est ça ce que tu m'as dit plusieurs fois.
J'ai dit c'est de la torture, ça c'est rien que je détesterais, je préfère voir n'importe quoi, plutôt que d'aller voir des courts-métrages. You're welcome.
J'ai eu des petits passages de torture, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu. Et à côté, moi, le niveau de torture, c'est du pipi de chat, la guimauve, mais... par rapport à ce que vous venez de me raconter.
Moi, je sortais de Fatih Akin, j'aurais pu revoir la rivière où on se faisait chier. Hein. Tu vois, à choisir, j'étais là, ramenez-moi tout de suite. À un moment, d'ailleurs, je t'ai dit, I miss the river. C'était vraiment ça, quoi. Oui, le la chouette.
Donc, j'ai vu un programme de 5 courts-métrages. Assez symptomatique de ce qu'on peut proposer en court-métrage dans un grand festival comme celui-là. Donc c'était le programme Berlinale Shorts 2. Dans une partie de la programmation de court-métrage qui s'appelle Calling the Spirits. Alors il y a un film, excusez-moi.
Ah oui, on a vraiment des contenus directs.
Oui, on a vraiment des contenus directs, donc je tousse, là je vais boire de la tisane, voilà. Alors, il y avait deux films qui étaient vraiment des expériences sensorielles, type films expérimentaux, etc. Tu dis, bon, en festival, à un moment donné, il faut qu'il y ait des films comme ça. Je précise que je me permets de peut-être de clasher et de juger durement la programmation, parce que la question de programmer des courts-métrages en festival, dans des festivals de différentes échelles, ça m'est familier depuis assez longtemps, aussi bien dans un cadre universitaire que dans un cadre associatif, que ces deux dernières années dans le cadre du Festival de Cannes pour la Semaine de la Critique où je faisais partie du comité cours. Donc je t'ai amenée à voir énormément de courts-métrages au kilomètre. Mm-hmm. On avait énormément et à devoir me poser plein de questions collectivement sur la façon d'organiser un programme et on ne programme pas du court-métrage de la même façon selon le contexte de festival dans lequel on est. On se pose des questions différentes, des questions de représentation de style, de genre, de longueur de film, de diversité des pays que l'on va programmer qui se posent dans le cadre d'un festival international. Et selon que l'on programme pour une section ou une autre du festival, on programme aussi en fonction de l'éditorial, de type de cinéma qu'une section entend défendre, donc on ne programme pas le même type de film. Donc il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte dans le cadre d'une programmation de court-métrage. Donc là, on a quelque chose d'assez cliché, je trouve, dans le bloc de 5 films que j'ai vu cet après-midi, avec 2 films très expérimentaux, avec des effets de lumière à l'écran et des voix-off. Alors les 2 films, c'était que de la voix-off, et à l'écran, des images avec du grain, des images floues, des effets thromboscopiques, etc. Puis il y en avait un, c'est une espèce de pensée sur le sens de la vie et l'absence de sens de la vie, etc. Le vide de l'existence et l'évolution, et la déconstruction des algorithmes et l'évolution de la planète Terre, et le film se prétend être un film sur l'histoire de l'humanité, sur une recherche visuelle du chaos. Et voilà, je trouve que finalement, on enfile vraiment des perles et je trouvais ça assez naïf. Le film s'appelait « It has to be lived once and dreamed twice ».
Ah, c'est le truc où il y avait un warning d'épilepsie.
Voilà, il y a un warning d'épilepsie parce qu'il y a des images hyper stroboscopiques, des effets de lumière.
J'ai vu le warning dans les...
Et c'était, c'est vrai qu'il y a des moments où c'était hyper violent et j'ai l'impression que c'était long, ça n'en finissait plus et ça durait 28 minutes. Donc ouais, effectivement, c'était long. Et en programmant du court-métrage, avec des sélectionneurs, on parlait toujours au niveau de la longueur des films de temps réel et temps ressenti, un peu comme degré réel et degré ressenti pour la météo, vous voyez.
Ouais.
Et là, en termes de temps ressenti, on était plutôt à 1h que 28 minutes, quoi. Donc clairement, ça c'est un truc que j'aurais préféré ne pas voir. Il y avait un autre film qui s'appelle Hector, qui était assez joli, assez poétique, mais en même temps qui savait pas trop où il allait, une histoire de jeune pêcheur. C'est un film chilien avec une apparition d'une femme mystérieuse, tout un délire autour des algues, une créature. Donc c'est le genre de film un peu film d'auteur aux confins du surnaturel qu'on rencontre très souvent quand on regarde des films pour des sélections internationales. Donc on a eu beaucoup de cases en fait. C'était assez intéressant parce que c'est assez représentatif de type de films qu'on peut être amené à voir quand on regarde des centaines ou des milliers de films pour un festival. Donc il y a quelque chose de l'ordre de voilà, de du paradigme en fait dans ce qu'on nous a proposé ici. Il y a un film que j'oublie complètement, je vous en fais grâce. J'ai vu un film chilien argentin, donc de double nationalité pour ce film là. Bon, ça, les nationalités des films sur les courts métrages, souvent il peut y avoir la nationalité du réalisateur, de la réalisatrice et de la prod aussi. Voilà. Et là en fait, dès la première seconde, je trouvais ça extrêmement mal joué. On en parlait en plus ce matin avec les filles du fait que la perception de certains films français par la presse internationale est biaisée par le fait que quand cette presse ne maîtrise pas le français, elle peut avoir l'impression que le jeu d'acteur est formidable alors que nous,
il est épouvantable.
C'est le cas pour le film d'Ozon. Parti pris de réalisation ou pas de direction d'acteur, moi j'adhérais pas.
Mais une fois de plus, si Melville Poupeau vous jouez exactement de la même façon dans une série TF1, ça montre bien que c'est pas juste un parti pris.
C'est pas juste un parti pris. Et je parlais du fait que justement, en regardant beaucoup de courts métrages de tous les pays du monde, il m'arrive souvent, même en voyant des cours de pays dont je maîtrise pas du tout la langue, d'être gênée par la gestuelle et par le regard des acteurs. Un acteur qui a un regard trop fixe donne l'impression de chercher son texte, qui a un regard flottant. Quand les directions de regard sont pas claires, sont pas affirmées, on sent l'incertitude, on sent la fébrilité, dans la gestuelle aussi, dans des positions de corps, on sent des inconforts. Et même dans une langue qu'on ne comprend pas, parfois, on identifie des fragilités. En tout cas, moi, il se trouve que je suis assez sensible à ces questions-là, et au jeu, à la direction d'acteur.
Ouais.
Donc ça me sort immédiatement du film, ça discrédite assez vite le film pour moi. Et alors il est vrai que face à certains films de langue qu'on ne maîtrise pas et de culture qu'on peut moins connaître, on sait qu'il y a des types d'intonation qui peuvent être différents, des gestuels, des habitudes, des signes, des codes gestuels qui sont propres à une culture, qui peuvent nous surprendre en tant que spectateurs français et européens, mais qui sont tout à fait normaux. Mais malgré tout, parfois, il y a quand même des choses qui sont perturbantes. Et là, sur le film Shakti, qui est l'histoire d'un jeune homme dépressif, en thérapie, qui a un rapport forcément compliqué avec les femmes, et qui est une espèce de loser magnifique. Vous voyez qu'on enfile les perles là aussi, hein, on a l'impression qu'on a pris des tampons, les a mis un à côté des autres pour faire un petit court-métrage d'auteur sympathique et en essayant d'être comique. Mais dès le départ, je trouve que ça prend pas le côté décalé comique du personnage, parce que c'est très maladroit au niveau du jeu, parce que les blagues sont pas tellement drôles,
ouais,
et que j'ai l'impression d'avoir vu ce film déjà 100 fois.
Mmh.
Et j'en suis désolée. j'aurais aimé que le... Je sens sur le papier un potentiel, et là, c'est plus au niveau du passage à la réalisation que ça pêche pour moi.
Ouais.
Et heureusement, en fait, le programme avait commencé par le meilleur film des 5, en tout cas celui qui a vraiment retenu mon attention, qui s'appelle Rise.
Mmh.
Et donc, je suis contente de pouvoir finir sur cette note-là. Donc, Rise, c'est un court-métrage dont la production est la, enfin, voilà, qui est associée en termes de nationalité, donc au Brésil, aux États-Unis et au Canada, tel que par exemple le programme, et ça se passe dans le métro de Toronto. Mm-hmm. Et c'est une sorte de documentaire, installation artistique avec une suite de tableaux avec des personnages noirs qui vont chanter, slammer, rapper, scander des textes poétiques et de musique traditionnelle et de musique contemporaine. Donc c'est le film de l'empowerment de l'identité noire. Donc j'aimerais, et là j'ai pensé à vous, Marine et Yael, parce que j'ai dit, mon Dieu, il faut absolument qu'on retrouve... J'ai dit Marine et Yael.
Non, mais moi, j'ai dit oui, Yael. Tu t'es dit, oui, Yael. Et donc j'ai dit Marine aussi.
Et j'espère qu'on pourra retrouver ce film et revoir ce film plus tard, dans notre contexte que celui du festival, parce qu'il mérite d'être vu. Et on a plein de portraits successifs avec des personnages qui sont seuls et qui se rencontrent dans différents espaces de ce métro qui est une station vide et où la parole va émerger. On parle d'amour, on parle d'identité. Donc à un moment donné, on a un garçon qui est sur le quai du métro avec son téléphone, qui regarde son Instagram avec une photo d'une fille qu'on vient de voir dans la séquence d'avant. Il la regarde et il chante I am your T'Challa. Voilà. Donc c'était l'instant Black Panther, tout en se recoiffant avec son peigne et en arrangeant sa barbe. On a plein de moments de vraiment d'empowerment. C'est cette idée de you can choose to be the change or remain silent. Et c'est un film sur la prise de parole, le fait justement de ne pas rester assez silencieux, de ne pas de prendre la parole, de ne pas se laisser définir par le passé ou par une histoire. Don't let history be your destiny. Enfin, il n'y a que...
Le contrepoint de Hard Selling Horses.
Avec donc des hommes, des femmes d'âge différents qui interviennent. Donc, c'est une espèce de comédie musicale hip-hop avec cette succession de tableaux. Il y a un petit côté... très pop, avec des fonds colorés, avec un usage très graphique de l'espace du métro. Alors, je pense qu'il y a des gens à qui ça peut ne pas plaire du tout, parce qu'il y a ce côté vraiment installation artistique assumée. Et moi, je trouve que, en tout cas, dans ce programme de 5 films, et même par rapport à beaucoup de films qu'on a vus depuis le début, en l'espace de 20 minutes, on nous dit beaucoup de choses, on nous montre beaucoup de beaux acteurs, de beaux chanteurs, on nous fait entendre des beaux textes, et ça fait un bien fou.
Je peux imaginer. Du coup, en fait, en t'écoutant, bon, pas celui-là, mais en t'écoutant décrire surtout celui de 28 minutes expérimental avec Le sens de la vie, je me dois de dire quand même que cet horrible film de Fatih Akin, que je considère comme inexcusable, a quand même a beaucoup d'aspects, maîtrise des choses que clairement, par exemple, Hard Selling Horses ne maîtrisait pas. Il y a quand même une unité de ton, il y a quand même pas de confusion. Enfin, on est quand même sur un réalisateur qui sait faire son métier, tu vois ce que je veux dire. Et qu'un des trucs qui me saoule dans les courts-métrages, des fois, c'est « Ah, je suis pas sûre de comment on va faire... » je vais faire un film, je vais réinventer comment on fait un film en faisant pas un film, tu vois. Mmh. Et que pour le coup, je ne peux pas reprocher ça à cet épouvantable film. Tu vois, on a parlé de films qui n'étaient pas du cinéma. Je veux dire, clairement, c'était du cinéma.
Là, clairement, il y a du cinéma, voilà, il y a une expérience, mais il y a un problème de responsabilité de mise en scène.
Mais c'était pas osant. Mm-hmm. Tu vois, c'était du cinéma, vraiment. Dehors. C'est d'ailleurs pour ça que c'était aussi insupportable. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça quand je t'écoutais parler des différents courts-métrages.
Oh, vous allez vomir.
c'est comme fin de... Bon, en tout cas, nous sommes maintenant déchargés. Nous allons maintenant, à présent, oublier ce film jusqu'à la prochaine engueulade. Avec, pas vous, mais des gens qui vont dire « Ah, j'ai vu le... » Voilà.
Quel chef-d'œuvre.
Bah non, mais il y a un peu ce côté, quand tu fais quelque chose, rentre dedans. Enfin, quand tu fais quelque chose d'extrêmement dérangeant, d'extrêmement radical, eh ben, ça impressionne. Et vu qu'on n'a plus le droit de dire maintenant... Enfin, tu vois, c'est étrange de faire l'argument de la pudeur, mais...
Oui, mais il y a une question de la responsabilité par rapport à la violence qu'on offre au cinéma, et c'est quand même une question qui parcourt le cinéma depuis le début de son histoire, quoi.
Ouais.
Quand on montre la violence à l'écran, c'est une responsabilité. Pourquoi on la montre ? Pour en dire quoi ? Ouais. On peut tout montrer à partir du moment où c'est justifié par rapport à une intention et qu'on n'est pas en train de se repaître d'une situation. Ouais. Qu'est-ce qui a le droit d'être dans la scène et qu'est-ce qui est obscène ? Qu'est-ce qui doit rester en dehors de la scène d'un point de vue étymologique ? C'est compliqué. Et de ne pas se repaître, juste de ne pas se repaître de la belle image, parce que je trouve que c'est quand même ça un symptôme de festival en général. De, ah oui, bon, ok, ça dit pas grand chose, mais quand même, d'un point de vue esthétique, ça a de la gueule. Donc ça suffit pas en
fait. Mais le truc, c'est qu'en plus, pour le coup, vis-à-vis de Outstealing Horses, il y avait le fait que Undog, hier, nous, on l'a vu. Et on a vu le côté, y a, on sait pas exactement ce qui se passe, on comprend pas tout, il y a de magnifiques visuels, c'est des émotions pas vraiment explicites que les gens ont. Et c'est, enfin voilà, on l'a vu, mais moi ce que je disais surtout, c'est heureusement qu'on avait Wang Quan'an, donc réalisateur chinois, pour faire Underdog, parce que sinon, l'image que les hommes nous donnent des hommes dans ce festival, alors une fois de plus, osons pour le coup, ses personnages principaux, il les aime. Je trouve pas qu'il les sert avec de grands dialogues, mais il les aime. Enfin, tu vois, il nous montre pas des hommes lâches et cons et quoi que ce soit. Après, il y a tous les...
Bien au contraire.
Voilà.
Ils montrent leur courage, ils montrent leur fragilité, mais... la façon dont ils l'assument.
Mais malgré tout, quand tu vois... Mais quand même, avec quand même enfin, bon, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est pas crédible émotionnellement. Bon, ça, c'est un autre problème. Enfin, pas pour tous les personnages, en tout cas. Mais...
On les a croisés, d'ailleurs, aujourd'hui.
Oui, on les a croisés dans la queue. Mais les acteurs... pas les vraies personnes, mais c'est vrai que quand tu penses entre Fatih Akin, enfin entre Molland et Akin, l'image de la masculinité qu'ils donnent, les plus beaux hommes qu'on a vus, c'était dans In the Kindness of Strangers,
réalisé par une femme.
Voilà, c'est fou, hein, ce truc de la représentation du genre. Du coup, est-ce que on peut pas, bon, alors faisons un dernier chapitre Berlin à l'ambiance. Je me suis coupée moi-même parce que ma phrase n'allait nulle part. Donc, Berlin à l'ambiance. Alors, du coup, moi, je suis en train de découvrir la difficulté que c'est d'avoir vu des films et d'avoir essayé d'écrire dessus ou d'avoir réussi à écrire dessus, pour l'instant, pas tous. Et ensuite, de lire des critiques officielles. Et donc, notamment, j'ai lu 2-3 trucs sur Ozon hier soir et on en a croisé encore une aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça assez... je me sens encore plus remontée quand je suis vraiment pas d'accord. Tu vois, le fait que toutes les critiques que j'ai lues d'Ozon étrangères, hein, c'est-à-dire que étrangères, parlent du jeu d'acteur extrêmement impressionnant et impeccable, ou comparent, disent que c'est un spotlight à la française.
Ça paraît absurde, en fait. Ça paraît absurde, en même temps, ça l'est pas. Enfin, moi, je suis pas surprise de lire ce genre de choses-là. Et j'ai souvent l'impression que dans ces circonstances-là, au festival... parfois, le sort de certains films semble réglé avant même que le film soit vu, en fait. Que la carrière d'un réalisateur, le parcours et le discours qui s'est construit autour de lui, sa persona, précède effet écran au film. Donc, par facilité, voilà. Certains vont peut-être dans le sens du vent. Après, la perception d'un réalisateur dans son pays, à l'étranger, est pas le même. On sait aussi qu'il y a des réalisateurs américains, par exemple, qui sont très appréciés en Europe, et peu, pas assez reconnus chez eux. Donc il y a tous ces phénomènes de circulation qui sont intéressants. Donc c'est intéressant de savoir aussi. Enfin,
ouais, mais c'est...
On découvre des choses sur la perception des réalisateurs français par la presse internationale. Et puis de façon plus générale, c'est ce que je disais un peu dans le premier papier que j'ai écrit au journal de bord numéro 1 pour lesécrans.com, la façon dont il y a des effets de groupe, des effets de masse, dès une sortie de projection. Lors des festivals, comment une pensée un petit peu commune peut se diffuser et se contaminer assez rapidement. Donc c'est bien de pouvoir
faire
un pas de côté, ouais, être un peu à con. Mais est-ce qui n'enlève
j'ai point de vue. J'ai un peu regardé sur Twitter des machins, j'ai vu des trucs sur, j'ai regardé s'il y avait écrit des trucs sur System Crasher, parce que en fait, pour l'instant, je pense que c'est mon film préféré du festival finalement. Et il y avait, j'ai vu un mec qui a écrit, je crois que c'est un critique scandinave qui a écrit, c'est clairement un crowd pleaser, but I am not a crowd. Donc c'est fait pour plaire aux foules et moi je ne suis pas la foule. Enfin, qui est d'une, voilà.
Et puis rappelons quand même qu'un film est fait pour être vu par des spectateurs et pas être vu juste par la critique. Mais... c'est génial de pouvoir découvrir des films dans ces conditions-là, mais qu'on fait pas un film pour 100, 1000 ou même 50 000 personnes qui vont au festival, mais pour que un film circule plus largement.
Mais donc ce mépris du public est quand même
assez embêtant.
Puis j'avais trouvé que ce truc-là avait un petit côté... ouais, elle a choisi un sujet facile en parlant d'une gamine à problème. Et je me suis rendu compte entre ça et quand même on a reproché à The Kindness of Strangers, je crois que c'est dans The Hollywood Reporter, de faire dans du misery porn. J'ai vu le film qu'on vient de voir. Misery porn prend un tout autre sens. Et je ne peux m'empêcher de réaliser que ce qu'on reproche... les raisons pour lesquelles on a l'air de dismiss, donc de mettre de côté les deux premiers films qui nous ont pourtant beaucoup plu, c'est beaucoup parce qu'ils couvrent des émotions où ils ont un regard qui est un peu plus féminin. Ça veut dire qu'un réalisateur n'aurait pas pu l'avoir ou que toutes les réalisatrices ont ce regard-là. Mais dans ces cas précis, on célèbre, on s'intéresse, on souligne des émotions et des moments de vie qu'on a rarement vus. Et donc, et qui sont plus des choses qui sont reléguées à de l'expérience féminine, y compris dans la littérature, et qui sont des choses, on est habitué, la sentimentalité, les enfants, voilà, on est habitué à mettre ça de côté. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas une misogynie intériorisée de la part des critiques. Enfin, je me demande. Je me dis que la misogynie intériorisée de la part des critiques, et je pense que c'est les hommes comme les femmes, là encore, hein, la misogynie intériorisée n'est pas l'apanage des hommes, qui, je pense, va continuer à m'énerver. Mais on verra demain quelles ont été les critiques des trois films d'aujourd'hui, parce que je pense que pour le coup, vu les films d'aujourd'hui, on va voir, le panel va être intéressant. Comment est-ce qu'ils ont reçu le premier film, avec toutes les choses dont on a parlé. Ouais, et le deuxième et le troisième, c'est intéressant quand même de voir.
C'est juste confirmer que Zenidas.
Oui, c'est ça.
Ils ont besoin qu'on leur ouvre les yeux et continuer des nouvelles...
En tout cas, nos voix sont nécessaires à la conversation, on va dire. Ce qui est effectivement quelque chose que j'ai pas toujours pensé, parce qu'il y avait l'idée, les critiques, est-ce que moi je suis légitime pour être critique, est-ce que j'ai fait les bonnes études, est-ce que j'ai le bon regard, est-ce que j'ai les bonnes informations, est-ce que je devrais avoir une connaissance encyclopédique de chaque réalisateur avant d'aller voir son film, est-ce que j'ai le bon langage pour parler de la caméra, enfin tout un tas de choses qui m'ont empêché pendant longtemps d'imaginer que je puisse être critique cinéma, et d'ailleurs je n'utiliserai peut-être pas ce terme là parce qu'il y a trop de connotations. Pas que je sois pas légitime, mais ça demande quand même. Je pense qu'il y a quand même c'est plus en termes d'engagement au niveau de ton temps d'être critique. Voilà, moi je me sentais critique série, mais pas critique cinéma. Et je pense que voilà, la raison pour laquelle j'aime écrire des choses pour les écrans terribles et je suis contente de faire ce podcast, c'est aussi parce que il y a quelque chose dans l'approche même des écrans terribles qui me parle, parce que justement il y a comme une reconfiguration des choses où on n'est plus dans cette espèce de légitimité. Est-ce que j'ai fait une école de journalisme? Est-ce que j'ai écrit 8 critiques sur tel type de film, c'est pour ça que j'ai le droit d'écrire une critique sur le cinéma 2. Enfin, toutes ces choses-là sont...
Oui, c'est important de faire entendre d'autres voix. Et ouais. Puis, comme disait il y a longtemps François Truffaut, qui n'est pas forcément mon grand ami, mais pour le coup, il a dit tout le monde a deux métiers, le sien et critique de cinéma. Et finalement, il y a plein d'avis critiques qui sont intéressants. Et tout le monde voit des films et qu'à partir du moment où on a accumulé un certain nombre de films, on les confronte naturellement, on les fait résonner entre eux et on a des choses à dire et on peut être amené à les penser. C'est aussi la difficulté de ce métier. Où commence et où s'arrête la critique? Qu'est-ce que c'est que la critique professionnelle? Ça, c'est encore un autre travail. Et puis, je rappelle juste que critique, d'un point de vue étymologique à nouveau, ça signifie distance. Donc prendre de la distance, trouver la juste distance par rapport à ce qu'on a vu, à ce qu'on a éprouvé, et que l'objectivité n'existe pas, la subjectivité entre en jeu, et qu'effectivement aussi, dans notre vécu personnel, dans l'expérience du film, au-delà de toutes les connaissances esthétiques et techniques qu'on peut avoir, historiques, sur l'histoire du cinéma, et que tout ce qu'on peut accumuler comme connaissances sur le cinéma, sur les films, sur les réalisateurs, ça peut être utile comme ça peut être un boulet au pied, quoi, une chaîne au pied, dans le fait d'être amené à ne faire résonner les films qu'entre eux, à des systématismes dans la façon de penser les films. Donc, donc c'est vrai qu'il faut être toujours alerte. Il y a des gens qui savent le faire. Enfin, il y a des gens qui écrivent pour des gros médias comme pour des titres indépendants qui savent être autocritiques, justement. Je pense que c'est un métier qui appelle beaucoup l'autocritique et à penser à soi-même. Aux chaînes qu'on peut se mettre, aux cases dans lesquelles on peut s'enfermer dans la façon de penser, quoi. De faire attention de ne pas être en roue libre et en pilote automatique pour ne pas produire une pensée préfabriquée juste en fonction de trois noms qu'on va balancer dans un article en référence au film. Ça fait penser à ci, ça fait penser à ça, donc on met le film dans telle case et basta cosy.
C'est le spotlight à la française.
Bah, c'est une facilité de pensée et d'écriture, par exemple, de caler une référence qui plus ou moins peut parler et va parler à un certain lectorat.
Mais c'est ça, mais vous savez que les références sont dans le film.
Hein ?
La référence est dans le film. Oui, il y a la fiche de spotlight dans le film. J'avais pas du tout capté ça dans le film, en fait.
Donc c'est d'autant plus une facilité.
Oui. Ouais. Bah, il le dit comme ça. On voit la fiche de spotlight et effectivement, la référence n'est pas anodine parce que c'est exactement ce que les survivants de l'association voulaient que vous en fassiez. Un spotlight à la française. Et il a réussi. Je pense que c'est Zolio, le reporter. Et je suis pas d'accord. Sur ces bonnes paroles,
après cette journée de réflexion,
ouais. Nous allons vous laisser pour ce podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast, à commenter, à le réécouter, à l'entendre la nuit pendant que vous rêvez. Je ne sais pas ce que vous voulez faire d'autre avec ce podcast.
Un monde meilleur.
Aussi.
Et de nous croire quand on dit de ne pas aller voir The Golden Glove.
Voilà, aussi. Vous pouvez nous croire. Après, c'est ceux qui ont mis spoiler et qui n'ont pas voulu avoir. Ah, mais du coup, on a rebondi. Il faut nous croire. Nous allons continuer ces aventures podcastiennes et ces aventures berlinoises avec de plus en plus d'échos du coup des films qu'on a déjà vus. En attendant, vous pouvez lire Carole sur le site. Vous pouvez lire quelques débuts de critiques que j'écris en anglais sur mon Instagram. Vous pouvez aussi regarder sur Écran Terrible les stories, les machins. Voilà, on essaie de poster des choses sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez bien sûr liker la page Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe. Et on vous rappelle l'adresse du site www.lesecranterribles.com. Des fois que vous nous y trouvez par hasard. L'Instagram, @écranterrible au pluriel. Nous avons aussi nos Instagram personnels. Carole.
Mon Instagram, c'est Elinor_Ronil, qui est Elinor à l'envers.
Marine.
Écureuil berlinoise, comme ça se prononce, tout accroché. Petit.
Voilà, moi c'est Yaelka, Yaelka, A, deux A. Et moi j'écris aussi un peu tendance sur Twitter, enfin généralement plus que pendant le festival, mais quand même, vous pouvez aller regarder. Et c'est Yaelka avec un seul A à la fin.
Et moi, Marskaya.
Et toi, c'est Marskaya. Morskaya. Voilà, je pense que ça suffit sur les choses où il faut nous suivre et nous stocker. Et bah, à demain.
Et parlez du podcast, et partagez-le, et réagissez, commentez. Et dites-nous que c'est bien.
Oui, surtout.
C'est
dites-nous
ça.
Ça. Dites-nous
pour nous donner envie de continuer.
C'est ça.
Dans la vie de la critique.
Oui, aussi. En plus de continuer dans les podcasts.
Et dans la vie tout court.
Donc voilà, c'était Les Écrans Terribles chez les ours, épisode 3.